Prends, on est à la page 29, B4. On avait dit que, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? La Mishnah, on a dit, Matsaksut menahara achat l'shloshimio. Que si une personne a trouvé un vêtement, dans ce cas-là, on dit qu'il ne peut pas le laisser simplement dans le placard et le laisser comme ça jusqu'à ce que le propriétaire va se manifester. Il doit le secouer, il doit secouer le vêtement une fois tous les 30 jours. Alors, la Gemara pose la question et dit, les mêmes rats, est-ce qu'on va dire que, a priori, c'est ce qu'on comprend de la Mishnah, des niour, mais allez là, que secouer un vêtement, c'est bien pour le vêtement, ça veut dire que le fait de secouer un vêtement, ça fait du bien au vêtement.
Oui.
D'accord, a priori oui. Vous allez voir la question.
Ouais.
Ah, ma Rabbi Yohanan, voilà, Rabbi Yohanan a dit. Rabbi Yohanan a dit, donc, c'est un petit peu avec une, dans un air de, enfin, dans un air un petit peu de plaisanterie. Il a dit comme ça. Mish yeshlo, garde uman betor beto, alors, yenéas tout au becholium. Il a dit, celui qui a un artisan chez lui, d'accord, qui peut tisser son vêtement, qui peut lui tisser des vêtements chaque jour, alors qu'il s'amuse à secouer son vêtement. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que secouer un vêtement, ça abîme. Et c'est donc en plaisantant, il a dit, celui qui a un tisserand professionnel chez lui à la maison qui peut lui coudre des vêtements tous les jours, alors qu'il s'amuse à secouer les vêtements tous les jours. Donc a priori, d'accord, a priori, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que secouer un vêtement, ça l'abîme. Donc toi, tu me dis qu'il faut secouer le vêtement une fois tous les 30 jours, mais là, on voit clairement que Rabbi Yochanan dit que secouer un vêtement, ça abîme. On a la réponse de la Gemara. On a plusieurs réponses. D'accord ? On va avoir 4 réponses. Première réponse de la Gemara, Amré, ils ont répondu. Les élèves de la Yeshiva, ils ont répondu comme ça. Bechol yom kashela. Effectivement, si on secoue un vêtement tous les jours, c'est là que ça abîme le vêtement. Parce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ? Rabbi Yochanan a dit, celui qui a un tisserand professionnel chez lui, alors qu'il s'amuse à secouer ses vêtements tous les jours. Donc il dit comme ça. Secouer les vêtements tous les jours, là ça abîme le vêtement. Mais echad l'ishloshimiyam, mais allez là. Mais secouer un vêtement une fois tous les 30 jours, mais allez là, ça fait du bien en vêtement. D'accord ? Je pense que, je sais pas comment on fait aujourd'hui, comment ils font aujourd'hui les femmes ?
C'est une question de...
D'accord ?
De...
Comment ils font aujourd'hui les femmes ? Tous les combien elles secouent les vêtements ?
De deux âges.
De Pessah à Pessah ?
Hein ? Non, mais le vêtement, quand il est nettoyé, lavé, à ce moment-là, elles peuvent le secouer ou le travailler un petit peu.
Ah, voilà, c'est ce qu'il nous dit ici.
À chaque fois.
Il nous dit ici qu'un vêtement, le fait de le secouer tous les jours, ça l'abîme.
Ouais.
C'est ce qu'on apprend ici. Mais le fait de le secouer une fois tous les 30 jours, peut-être ça va l'abîmer un petit peu. Mais on va gagner beaucoup plus parce que ça le dépoussière.
Parce qu'en 30 jours, le vêtement, il aura été mis.
Il prend la poussière. Non, ah non, c'est un vêtement trouvé, ça.
Ah oui, un vêtement trouvé. Ouais.
Il est dans le placard.
Ouais.
Mais une fois tous les 30 jours, je dois le sortir et je dois le secouer. Pourquoi je dois le sortir et je dois le secouer ? Parce que pour le dépoussiérer.
Bon.
Ça, c'est une première réponse. Donc, pour expliquer pourquoi on n'a pas de question avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan parlait de secouer tous les jours, et nous, on parle de secouer une fois tous les 30 jours. C'est la première réponse. Deuxième réponse. Ibn Temar, je te donne une autre réponse. L'Akashia, qu'on n'a pas de question ici. Ah, Bechad. Notre Mishnah qui a dit que une personne qui trouve un objet, il doit le secouer. De quoi on parle? On parle de Bechad quand c'est une personne qui secoue un vêtement. Que là, une personne qui secoue le vêtement, ça s'habille pas le vêtement. Mais Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan a dit que secouer un vêtement, ça l'abîmait, de quoi il parlait? Bitré. Quand c'est deux personnes qui secouent un vêtement. Et alors? Quand c'est deux personnes qui secouent un vêtement. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, ils vont étirer le vêtement et ils vont l'abîmer. Donc voilà une deuxième réponse. Deuxième hypothèse, c'est des hypothèses tout ça, hein. D'accord.
Et où on voit qu'il parle au pluriel.
Rabbi Yochanan, c'était une plaisanterie qu'il a dit. Il n'a pas expliqué de quoi il parlait. Il n'a pas expliqué s'il parlait d'une personne qui tire, de deux personnes. Ouais. Vous allez voir encore, il y a beaucoup de choses que Rabbi Yochanan n'a pas dit. Donc, on essaye d'expliquer la différence.
Ouais.
On cherche les failles un petit peu. Donc, premièrement, on a une première réponse.
C'est des hypothèses.
Voilà. Des hypothèses pour dire que Rabbi Yochanan ne dit pas le contraire dans notre Mishnah, parce que sinon ça va pas.
De ce qu'il a voulu dire.
Première réponse, on a dit, Rabbi Yochanan parle une fois chaque jour, et nous on parle tous les 30 jours. Deuxième hypothèse, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre Mishnah, elle parle d'une personne qui secoue le vêtement, et Rabbi Yochanan parle de deux personnes qui secouent le vêtement. Ibn Temar, troisième réponse, nous propose la Gemara, la Kashia. On n'a pas de question, c'est pas une question. Pourquoi? Ha, Bida. Quelqu'un en parle, il dit comme ça, il dit, notre Mishnah qui a dit que ça fait du bien, notre Mishnah qui a dit qu'il faut secouer le vêtement de quelqu'un, elle parle de secouer le vêtement à la main. Normalement, comment on fait pour dépoussiérer un vêtement? Là, c'est bien pour le vêtement. Ah, mais alors que Rabbi Yochanan, de quoi il parle, Bechutra, il parle de secouer le vêtement avec Bechutra, avec un bâton. C'est un petit peu comme on fait pour secouer les... Comment on appelle ça?
Les tapis de voiture.
Les tapis de voiture. Ouais. Ouais. On les secoue contre... On les tape contre quelque chose, et là, ça abîme. Alors, le tapis de voiture, il est costaud. Mais prenez un vêtement, amusez-vous à faire ça. Et là, il faut avoir un tisserand professionnel pour le faire tous les jours. C'est vrai que c'est des poussières graves. Enfin, mais...
Ça dépend ce qu'on a à taper.
Ça dépend ce qu'on a à taper. Donc, c'est une troisième hypothèse. Quatrième hypothèse de la Gemara. Ibaïtema, si tu veux, je te dire. La cachée, on n'a pas de question. Abide Amra, Rabbi Yochanan qui a dit que secouer un vêtement, ça lui fait du mal. De quel cas il parlait? Il parlait de la laine. Et alors? Un vêtement de laine, c'est un vêtement qui s'étire très rapidement. Et c'est un vêtement qui se déchire très rapidement. Donc là, dans ce cas-là, ce vêtement-là, il vaut mieux ne pas le secouer. Mais notre Mishnah qui a dit qu'on doit secouer le vêtement, de quel cas elle parle? Bide Kitna, un vêtement en lin. Alors, en général, le lin, c'est plus solide. Pourquoi c'est plus solide? Parce que ça ne s'étire pas. Et ça ne se déchire pas. D'accord? C'est pas en le secouant que tu vas le déchirer. Donc on a eu quatre réponses ici, de la Gemara, pour expliquer la différence qu'il y a entre notre Mishnah et Rabbi Yochanan. Donc, en conclusion. Est-ce que secouer un vêtement, ça lui fait du bien? D'accord? Alors, a priori, oui. Maintenant, il y a peut-être des hypothèses. Secouer tous les jours, peut-être ça lui fera du mal. Secouer à deux, ça fera peut-être du mal. D'accord? Secouer sur un bâton, comme les tapis de voiture, ça lui fera du mal. Et secouer un vêtement en laine, ça peut faire du mal. Mais si c'est pas tous ces quatre cas-là, il n'y a pas de problème. Non seulement qu'il n'y a pas de problème, mais si on trouve cet objet-là, il faut le secouer, parce que ça fait du bien en vêtement de le secouer pour le dépoussiérer. Ok.
Une petite question.
Oui.
Quand Rabbi Yochanan, il dit ce qu'il a dit, pourquoi on lui donnerait forcément le crédit de ce qu'il a dit, et que sur ça, on va essayer de trouver
parce que
la Mishnah...
Nous, Rabbi Yochanan, on a des sources sûres ce qu'il a dit. On sait qu'il a dit ça. Maintenant...
Mais quand il le dit, pourquoi on lui donne un crédit, comme si que la halakha, elle a été...
Parce que Rabbi Yochanan...
Elle a été tranchée d'après lui.
Parce qu'on dit que Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il connaissait notre Mishnah. Et c'est pas possible qu'il a dit quelque chose qui s'est exprimé contre notre Mishnah. Ça, c'est une base. Et des fois, quand on est bloqué, là on a eu quatre réponses, mais des fois quand on trouve pas de réponse, on dit certainement, ce que Rabbi Yochanan a dit, sa main a été transmise. Parce que c'est pas possible que Rabbi Yochanan, un Amora, d'accord, dise, ne soit pas au courant d'une Mishnah. C'est possible qu'un Amora ne soit pas au courant de ce qu'un autre Amora a dit. Mais c'est pas possible qu'un Amora soit pas au courant d'une Mishnah. Donc s'il a dit quelque chose qui est apparemment le contraire d'une Mishnah, c'est qu'apparemment, on a mal compris ce qu'il a dit.
Mais c'est sans être le contraire. Mais pourquoi que ce qu'il dit, lui, ça va faire... c'est un gage d'une preuve évidente.
Parce qu'on a une halakha qui est écrite dans la Mishnah, d'accord, sur laquelle, a priori, il n'y a pas d'équivoque, qu'il faut secouer tous les jours, qu'il faut secouer une fois tous les 30 jours, il n'y a pas de marloquette. Ouais. D'un autre côté, on a Rabbi Yochanan qui est un Amora, et qui vient, et qui dit le contraire. Un Amora ne peut pas contredire une Mishnah.
Ouais.
Il doit trouver au moins un Tana qui dit comme lui. Là, il n'y a pas de Tana qui dit comme lui.
Et pourquoi son dire, il serait crédible au point que nous, on doit trouver la solution pour
parce
ne pas
Rabbi Yochanan, c'est un Amora. C'est comme si je vous dis un Rabbi qui a dit ça, c'est un Amora. C'est sûr que Rabbi Yochanan, quand il a dit ce qu'il a dit, il avait en tête la Mishnah. Donc nous, on essaye de savoir qu'est-ce qu'il avait en tête.
Ça, je sais. Et pourquoi son hypothèse, qu'il a dit, qu'il a déclaré, on devrait s'en tenir à son hypothèse.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être qu'il plaisantait,
et c'est tout. Non, pas qu'il plaisantait.
Peut-être que ça m'a été transmis.
Non, mais qu'est-ce qui nous fait dire que ce qu'il dit, c'est... Il n'y a pas de remise en question de ce qu'il dit.
Parce que ça a été transmis. On est parti au Beit HaMidrash de Rabbi Yochanan. Les élèves ont dit Rabbi Yochanan nous a dit ça.
Non, parce que nous, on sait que la halakha, par exemple, elle est discutée et après elle est tranchée. Lui maintenant, bon, bien sûr qu'il est à son niveau, mais quand il va dire quelque chose, ça fait office de halakha, quelque part.
Je vous explique quelque chose. Rabbi Yochanan.
Il faut essayer de comprendre le mécanisme.
Compris. Rabbi Yochanan, en clair, hein, je m'en suis une petite parenthèse, mais je le ressens tout de suite. Rabbi Yochanan, c'est un petit peu. C'est un Amora.
Ouais.
D'accord. La Mishnah, c'est 400 ans en arrière.
Ouais.
On part d'une base. Qu'un Amora, il est forcément au courant de ce qu'une Mishnah a dit.
D'accord.
C'est comme si je vous dis à un décisionnaire aujourd'hui d'accord. qui n'est pas au courant de ce qui est écrit dans Shulchan Aruch il y a 400 ans. Il y a un problème, c'est pas un décisionnaire. Ouais. Très bien. Donc si vous avez Rabbi Yochanan qui a dit quelque chose qui apparemment va contre ce que la Mishnah a dit. Ça va contre ce que la Mishnah a dit.
Ouais.
Et dans la Mishnah, tout le monde était d'accord avec ça. Personne n'était en marloquette.
Par contre, pas forcément.
D'accord.
On est en train de voir que...
Non, mais dans la Mishnah...
On parle peut-être pas de la même chose.
À l'époque de la Mishnah, ouais. Tout le monde était d'accord sur ça. Personne n'était en marloquette. Ouais. Au Beit HaMidrash de Rabbi Yochanan, qui apparemment n'est plus parmi nous, sinon on lui aurait demandé.
Ouais.
D'accord. Rabbi Yochanan, au Beit HaMidrash de Rabbi Yochanan, on a enseigné le contraire. On enseigne qu'apparemment, secouer un vêtement, ça lui fait du mal. Donc il y a un problème. Rabbi Yochanan est au courant de cette Mishnah. Donc qui c'est qui a répondu cette réponse-là? C'est les élèves de la yeshiva de Rabbi Yochanan qui ont dit certainement Rabbi Yochanan parlait dans un cas particulier.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas possible Rabbi Yochanan comprenne la Mishnah. Et c'est pour ça qu'elle a la Gemara. Ok. Alors on est ici maintenant à Amar Rabbi Yochanan. Vous voulez nous montrer où c'est? 29B4. Ouais.
Donc, juste pour...
Oui.
Pour conclure, ça veut dire que chaque parole d'un Amora,
c'est crédible.
C'est comme si c'était la Lara.
Ah, bien sûr.
Ce qu'il dit,
bien sûr.
C'est...
Sauf des fois, ça mal... Alors, des fois, quand on voit qu'on est bloqué, on va dire, bon, ben, peut-être ça a mal été transmis par cet Talmidim. Alors, une fois que la Gemara, donc puisque la Gemara a amené plusieurs choses, puisque la Gemara a amené... Voilà. Puisque la Gemara a amené plusieurs conduites, plusieurs conduites que Rabbi Yochanan nous a dit, qui sont liées au Derech Eretz. D'accord. Donc la Gemara va nous amener plusieurs enseignements de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Kasa Vecharshin. D'accord. Il est préférable qu'une personne boit un verre qui a été préparé par des sorciers, en autre terme, ça veut dire un verre ensorcelé. Velo Kasa Depochrin. Il est préférable de boire, pour nous dire à tel point qu'un point c'est grave, c'est mieux de boire un verre ensorcelé que de boire un verre d'eau tiède. C'est-à-dire quoi un verre d'eau tiède? C'est de l'eau qui n'a pas été assez chauffée. De l'eau qui n'a pas été assez chauffée. Alors, comme le commentaire explique, ça fait du mal au corps de l'homme. Prenez la bouilloire par exemple. Prenez la bouilloire, vous chauffez, là, vous commencez à chauffer et vous arrêtez. Vous ne la laissez pas chauffer jusqu'à ébullition. D'accord? On ne parle pas ici de l'eau. Si l'eau a déjà été chauffée, il n'y a pas de problème. Comme on verra après. Mais si l'eau n'a jamais été chauffée à ébullition, c'est très dangereux pour la santé. C'est encore plus dangereux que si on prenait un verre ensorcelé. Bon, aujourd'hui, on fait plus attention à la sorcellerie, mais à l'époque, on faisait attention à ça. Parce qu'à l'époque, il y avait des sorciers qui savaient faire leur boulot. D'accord. Donc, de l'eau tiède, c'est pas bon.
Donc, si elle a bouilli, on la laisse refroidir.
Là, c'est bon.
La boit tiède,
pas de problème.
Okay.
Ensuite, la Gemara continue. Pour expliquer ce que Rabbi Yochanan a dit. Velo Amaran, on a dit ça. Et là seulement, c'est-à-dire, on a dit ça que de l'eau tiède, c'est mauvais pour le corps. Et là seulement, bikli matechot. Seulement, lorsqu'ils ont été chauffés dans un ustensile en ferraille. Comme une bouilloire. Bouilloire aujourd'hui, non, quoi qu'il y en a en plastique aussi. Bouilloire. Bon, bouilloire qu'on a ici.
Ouais, mais là, on est génération micro-ondes.
Génération micro-ondes, oui. Attends, bon, on va voir. Et là, dans génération micro-ondes, ça n'arrive pas à ébullition.
C'est ça que c'est ça le problème.
Tu comprends? Ça va tiédir. Ça chauffe pas. C'est pas, ça n'arrive pas à ébullition.
Je suis pas d'accord. Bien sûr, j'ai un verre qui m'a explosé dans la figure.
Ah, vous avez dû mettre longtemps. Les gens, quand ils mettent au micro-ondes, ils mettent une minute. C'est
non, mais il peut aller jusqu'à...
Merci.
Même mon café, quand je mets un verre d'eau dans le micro-ondes, il va à ébullition. Il y a quand même...
Il est à ébullition. Bon, bah.
Non, mais le verre, il est fin, des fois. C'est le verre qui va bon.
Il y a un effet de... Quand j'ai ouvert avec...
Non, mais c'est la chaleur...
Bon,
mais
c'est notre histoire.
C'est le micro-ondes.
Alors, dit comme ça. Et là, bikli matechot, aval, mais s'ils ont été chauffés bikli cheres, dans un ustensile en argile. Let's land by, il n'y a pas de problème. Donc apparemment, c'est quelque chose lié avec le métal. C'est pas fini. Viklimatechotnami, dans les ustensiles qui sont en ferraille, l'eau amaran, on a dit que ça pose problème, et là seulement, dès l'eau de sévite. Seulement si l'eau n'a pas été chauffée à 100%, c'est-à-dire si l'eau n'est jamais arrivée à ébullition. D'accord? Aval dit vite, si l'eau a déjà été chauffée à ébullition, mais qu'elle a refroidi, d'accord? Dans ce cas-là, let's land by, d'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord? Ensuite, il continue. Il dit. Velo Amaran. Et on a dit aussi que boire de l'eau tiède qui a été chauffée, enfin qui a été tiédie, jamais arrivée à ébullition dans un ustensile en ferraille, on a dit que ça pose problème. Et là seulement, Zelo Shadab et Tsivia. Seulement, si on n'a pas mis dedans Tsivia des plantes. C'est-à-dire si on boit l'eau comme ça. Aval, mais. Shadab et Tsivia, mais si on a mis dedans des plantes, donc le café par exemple. Le café.
Ou le thé.
L'etlanba, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça nous réconforte. Là.
Ouais.
D'accord.
Ouais, mais moi, je mets pas la truc dedans.
Non, c'est pas grave. D'accord. Ce qui compte, c'est qu'il faut mettre après quelque chose. Ça veut dire qu'il faut mettre après une fois que tu as mis du café ou quelque chose, c'est bon. Mais si on ne met pas de café, quelqu'un il boit de l'eau tiède, on s'est mis au micro-ondes, voilà par exemple, il prend de l'eau qui est jamais arrivée à ébullition. Je ne sais pas si l'eau qu'on prend au robinet, elle est déjà arrivée à ébullition. Peut-être pour la nettoyer, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, c'est possible qu'elle n'ait jamais arrivée à ébullition.
Oui, c'est sûr qu'elle
est. C'est sûr ?
Ouais, pour la nettoyer. Elle traite, mais c'est obligé.
Parce que, non, bah, peut-être qu'ils ont des autres manières de traiter avec des produits, des trucs comme ça, c'est possible. Hein.
Je pense pas.
Bon. Si on est sûr qu'elle est déjà arrivée à ébullition, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Mais si on ne sait pas si elle est déjà arrivée à ébullition, là, dans ce cas-là, d'accord, le fait de boire de l'eau qui a été tiédie dans un ustensile en fer, en ferraille, alors qu'elle n'a jamais été arrivée à ébullition, d'accord, et qu'on a, et qu'il n'y a pas de, qu'on a remis dedans, pas de café, pas de thé, ça pose problème. C'est une parenthèse que la grande nous a ouvert avec Rabbi Yochanan.
Moi, je connais pas beaucoup de gens qui boivent de l'eau tiède, hein, sans rien dedans.
Moi, j'ai déjà vu souvent des gens ici au votre appel, des gens qui vous mettent l'eau à chauffer, d'accord, vous mettent l'eau à chauffer, ils laissent 30 secondes, et ils l'éteignent et ils se mettent à servir le café.
Non, mais il y a du café dedans. Mais boire de l'eau tiède comme ça, c'est un cas qui est.
Il y en a qui le font.
En tout cas, il faut savoir.
Ils le font pour les régimes, genre ils boivent et ils boivent de l'eau tiède.
Que de l'eau.
Ouais, tiède, de l'eau tiède.
C'est rare, hein.
Bon, vous voyez, de toute façon, on voit que c'est déconseillé. Parce que moi, plein de fois, je vois des gens mettre à bas d'ici. Ils mettent l'eau à chauffer, 30 secondes. Après, ils éteignent, ils se servent.
Non, mais c'est bon mettre dedans.
Si on met du café dedans, c'est bon.
C'est pas de problème.
Pas de problème. Alors, Vama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit aussi la chose suivante. Toujours donc dans la lachot de Recheret. Mishi niach lo aviv maot arbe. Une personne que son père lui a laissé beaucoup d'argent. D'accord ? Son père lui a laissé beaucoup d'argent. Verotse le abdan. Verotse le abdan, et il a envie de les perdre. D'accord ? C'est toujours, c'est avec une touche un peu humoristique, hein. Vous allez voir ce que veut dire la Gemara. Donc si quelqu'un, il a reçu un héritage beaucoup d'argent, et il a envie de les flamber. Alors, on va lui donner des conseils comment flamber son argent. Alors, il bâche Big Depishtan, qui s'habille avec des vêtements en lin. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le lin ? Le lin, comment on dira après, ça s'abîme rapidement, mais on va voir tout de suite après. Vishtamesh Biklesrochit, et qui se servent à la maison d'ustensiles en cristal ou en verre, d'accord. Veiskor Poali Vaishavimaem, et qui loue des employés, d'accord, qui embauche des employés, mais qui ne reste pas à côté d'eux. Ça c'est trois choses. Rabbi Yochanan te garantit que ces trois choses-là, tu flambes ton argent. Quand une personne elle met des vêtements en lin, quand une personne elle prend des ustensiles en verre, c'est-à-dire qu'ils se cassent très vite, et quand on embauche des employés mais on n'est pas derrière pour voir ce qu'ils font, l'argent va se flamber, c'est sûr. Alors, Agmara explique comme ça. Elle dit comme ça. Elle dit, il bâche big des pichetans. Quand Rabbi Yochanan nous a dit qu'il faut mettre des vêtements en lin, de quoi il parle? Il parle bikitana romita. Il parle des vêtements de lin, parce qu'on voit beaucoup de gens qui mettent des vêtements en lin. Pourtant, ils sont pas devenus pauvres. D'accord? De quoi on parle? On parle des vêtements en lin qui viennent de Rome. Je sais pas si aujourd'hui il y a du lin qui vient de Rome. En tout cas, à l'époque, il y avait des vêtements qui venaient de Rome. C'est un peu comme je dirais aujourd'hui, bah oui, les vêtements italiens. D'accord? Bon. Donc, il y avait les vêtements de Rome, qui étaient des vêtements très chers et qui s'abîmaient très vite. D'accord? Donc là, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit, que celui qui achète des vêtements comme ça, il va flamber son argent très vite. Parce que c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Ce que Rabbi Yochanan a dit, Vishtamash Biklesrochit. Quand Rabbi Yochanan a dit qu'il se sert des ustensiles en verre. On a tous des ustensiles en verre. On a des verres, on a du cristal, on a des... Ça veut dire quoi? Alors, explique la Gemara de quoi il parle Rabbi Yochanan. Vezugita Chivarta. On parle de quoi ici? Bezugita Chivarta, du verre blanc. D'accord? Du verre blanc qui se brise facilement. Alors en passant une petite parenthèse, soit tu poses la question, il dit que dans la Gemara Sota, on nous raconte que depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, on ne trouve plus du verre blanc. C'est-à-dire ce verre blanc-là, on ne le retrouve plus. Et donc a priori, à quoi ça sert ce que la Gemara a dit, puisque la Gemara elle est écrite après la destruction du Beit HaMikdash. Et soit il explique. D'accord, ça il explique, il dit qu'en vérité, quand la Gemara a dit qu'il n'y a plus de verre blanc, c'est pas qu'il n'y a plus du tout, c'est qu'il n'y en a presque plus, mais il y en avait encore un peu. Donc c'était un verre qui coûtait très très cher. D'accord ?
C'est genre un cristal magnifique.
Un cristal très cher. Par exemple, on raconte que Ravuna, quand il était au mariage de son fils, il y a eu le mariage de son fils, et il s'est rendu compte qu'il y avait une grande simra et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un inara qui devait arriver. Il a senti ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un verre, un cristal, qui valait 400 zous, c'est une somme énorme à l'époque. D'accord ? Il a pris, il a jeté, il a cassé. Il a cassé en plein milieu de la salle. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que s'il y avait un inara qui passe dedans. Bon, ça dit qu'il voit des choses. D'accord ? Donc de là, on voit que, et la balade m'a dit que ce verre-là était dans ce cristal. C'est un cristal apparemment très très cher. Cristal blanc, magnifique. Donc là, c'est de ça qu'on parle. Quand Rabbi Yochanan dit, celui qui veut flamber son argent et qui achète du cristal, c'est de ce cristal qu'on parle. Et quand on dit Veistor Poalim Vayeshev Imahem, quand on dit on lui conseille de louer, d'embaucher des employés et de ne pas rester avec eux, d'accord, Targouma, il faut interpréter ce qui veut dire de quoi. Quand Betoré, on parle ici d'employés qui vont conduire, quand, qui vont conduire donc les taureaux, les bœufs du propriétaire, quand, des nafish psidayou. Pourquoi? Parce que c'est quoi le problème? On a des taureaux. D'accord? Quand tu as des taureaux, c'est quoi le problème? Des taureaux ou des bœufs, tu vas les amener pour faire des sillons dans les champs. Mais quand tu passes dans les champs, tu passes par beaucoup d'autres champs. Il y a des champs, il y a des vignes, il y a beaucoup de choses. Et quand on a des employés qu'on n'est pas derrière eux, qu'est-ce qui se passe? Ils font n'importe quoi, ils passent n'importe où, et tu dois repasser derrière, ça te coûte encore plus d'argent. D'accord? Donc c'est de ça qui est pas. On parle de choses, d'accord, que malheureusement il faut repasser derrière, et pas seulement ça, dans le chemin même pour aller, pour faire leur boulot, ils te cassent tout. C'est des gens qui font pas attention à ce qu'ils font. Mais si c'est pas le cas, si c'est un cas standard, je paye quelqu'un pour faire la peinture à la maison par exemple, je te demande pas de rester constamment à côté de lui, tu peux pas, tu en finis plus. D'accord? Ok. Donc ça c'était une petite parenthèse que la Gemara a ouverte sur les halachot de Derech Eretz, d'accord, de bonne conduite, et pour nous donner des petits conseils. Maintenant on reprend la halacha. Ibayel, donc Shotra le Torka, Avalolikvun. On enseignait dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on enseignait dans la Mishnah? On a dit que si Shotra le Torka, Avalolikvodo. On a dit que si on a trouvé un vêtement, d'accord, qu'est-ce qu'on a dit? On doit le secouer, monsieur Daniel, une fois tous les combien?
30 jours.
Je trouve un vêtement et j'ai pas encore trouvé son propriétaire initial. Je trouve, on parle de trouvaille, c'est le métier. Donc je trouve le vêtement, je le garde chez moi à la maison, le temps de retrouver le propriétaire initial. Tous les 30 jours, je dois le secouer. Et qu'est-ce qu'on a dit? Veshotro le torko, avalo le torka. On a dit, le torka, avalo le rvodo. On a dit que j'ai le droit d'étendre le vêtement pour le besoin du vêtement. Ça paraît que si c'est un vêtement qui a besoin d'être aéré et d'être mis par exemple à côté d'une fenêtre, une fois tous les 30 jours, il y a des vêtements comme ça qui ont besoin d'être aérés, je peux le faire. Mais je ne le fais pas pour mon honneur. Par exemple, si c'est un beau vêtement, Zerma, je l'accroche pour que tout le monde voit que j'ai un beau vêtement, alors qu'il n'est pas à moi, je l'ai trouvé et je dois le rendre à son propriétaire.
Zerma, d'accord, c'est dans les
d'accord. Donc, j'ai le droit de l'étendre, de la galerie, mais seulement pour le besoin de l'objet, et pas pour mon kavod. Alors, ça, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Dans la Gemara, pose une question. Il va y aller où? Rami a posé une question, qui sont très simples. D'accord? Les tzorko ou les tzorka maï? Dans la Mishnah, tu m'as dit que j'ai le droit d'étendre le vêtement pour le besoin du vêtement. C'est-à-dire si le besoin, par exemple, il a besoin d'être aéré à côté d'une fenêtre, pas de problème, pendant une heure, pas de problème. Mais pas pour mon kavod. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est les tzorko ou les tzorka? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine-toi que j'ai envie d'étendre le vêtement. Je trouvais une nappe, par exemple. Une belle nappe. D'accord?
Une paire de coups.
D'accord? Et j'ai envie de... Je me dis, tiens, puisque de toute façon je dois l'étendre, une fois tous les 30 jours pour l'aérer, pour la dépoussiérer, alors en même temps, je vais la poser sur la table. Je mange pas dessus juste pour kiffer, comme ça, une belle nappe. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? On n'a pas parlé dans la Mishnah, dans ce cas-là. La Mishnah a donné les deux extrémités. On a dit, tu as le droit de faire pour le vêtement, mais pour mon cavote, j'ai pas le droit. Mais on n'a pas parlé du cas au milieu, si je fais pour les deux. Pour le vêtement et pour moi. Alors, réponds la Gemara. Tashma, viens, écoute. Viens, écoute, on va amener notre Mishnah. Vous allez voir qu'on va essayer de décortiquer notre Mishnah. Dans la Mishnah, qu'est-ce que tu m'as dit? Shotra letzorka. Tu m'as dit que j'ai le droit d'étendre le vêtement pour son besoin, pour le besoin du vêtement. Donc de là, je comprends. Letzorka in. Que c'est seulement pour le besoin du vêtement que j'ai le droit de l'étendre. Ah, letzorka lo. Mais si j'aurais voulu l'étendre pour mon besoin et son besoin, pour le besoin du vêtement et mon besoin, j'ai pas le droit. Et ma sefa, mais regarde ce que dit la fin de la Mishnah, avalo lirvodo. Regarde ce que dit la fin de la Mishnah, j'ai pas le droit de l'étendre pour le kavod, pour mon kavod à moi. Et là, je comprends que lirvodo ou delo, c'est seulement pour mon kavod que je n'ai pas le droit. Ha, letzorka ou letzorko, chapir d'ami. Mais si c'est pour le besoin du vêtement, pour mon besoin, j'ai le droit. Et la meha, l'ekale mishmamina. Je vais expliquer ce que la Gemara veut dire. La Gemara veut dire très simple. Dit comme ça. Elle veut expliquer pourquoi on ne peut pas résoudre notre problème depuis notre Mishnah et qu'on va devoir faire appel à d'autres Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit notre Mishnah? Notre Mishnah a dit comme ça. D'accord? Notre Mishnah a dit, voilà, imaginez-vous que j'ai trouvé un téléphone portable et qu'on va dire qu'un téléphone portable, si si on le laisse dans le placard pendant plus de 6 mois, il s'abîme. Tous les 6 mois, il faut le sortir pour l'aérer. Imaginons que je vous dis ça. D'accord ? La Mishnah nous a parlé des deux extrémités. Elle a dit, j'ai le droit de l'étendre, donc de le sortir pour le besoin de l'objet que j'ai trouvé, mais pas pour mon kavod. Elle a parlé des deux extrémités. Elle a parlé, d'un côté, elle a dit, si je le fais que pour l'objet, et de l'autre côté, elle a parlé d'un cas où je le fais que pour moi. Elle n'a pas parlé du cas du milieu. Le cas du milieu, c'est quoi le cas du milieu? C'est si je sors le portable, une fois tous les 6 mois, donc c'est pour l'objet, et en même temps je fais la galerie. Pourquoi je dis qu'elle va parler? Parce que ce cas-là, je peux apprendre d'un côté que oui, d'un côté que non. Pourquoi? D'un côté, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu m'as dit que j'ai le droit d'étendre le vêtement, donc le portable par exemple, pour le besoin du portable. Donc de là, je comprends que si c'était pas uniquement pour le besoin, c'est assourd. Ah, je dis, mais attends, maintenant, il y a l'autre côté de la Mishnah. L'autre côté de la Mishnah qui t'a dit, mais j'ai pas le droit de le faire pour mon kavod. Ah, je dis, ah, ça veut dire que pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est que pour mon kavod. Mais si ce serait pour mon kavod et pour le besoin de l'objet, j'ai le droit. Donc vous voyez que des deux extrémités, là on est pile entre les deux extrémités et on ne sait pas quoi faire. Donc de là, c'est pour ça que la Mishnah a dit, et là, mais elle est les Mishnah Mina. La réponse à notre question ne se trouve pas dans la Mishnah. Vous suivez? Elle n'est pas dans la Mishnah, elle est ailleurs. Parce que de la Mishnah, je peux te démontrer des deux côtés. Du début de la Mishnah, je te prouve quelque chose, de la fin de la Mishnah, je te prouve autre chose. La Mishnah n'a pas parlé de ça. Alors on va chercher autre chose. Tashma, viens, écoute. On va te ramener une autre chose qui a été enseignée à propos de celui qui trouve un vêtement. D'accord?
Tu suis dans les mots ou tu préfères suivre à l'oral?
Je préfère suivre à l'oral.
Ah, d'accord.
Ce que je vais dire en même temps est...
Ah, déconcentre?
Non, ça me... Si je vois déjà la réponse... Ça me...
D'accord. Alors, Tashma, viens, écoute. D'accord? Lo ishtachena, lo al gabemita. Donc, on va amener maintenant une preuve de ce qu'on a enseigné à propos de celui qui trouve un vêtement. On dit comme ça. Une personne qui trouve un vêtement, lo ishtachena, il n'a pas le droit de l'étendre, lo al gabemita, ni sur un lit, velo al gabem magod, et ni sur un, comment il traduit magod, un pieu? Comment il traduit magod?
J'ai perdu fait ici, là.
Là. Magod. Ni sur un porte-manteau. Ah d'accord, oui. Traduit, c'est un porte-manteau. Bon. Avalo, donc Al-Gabé, où j'en étais. Velo Al-Gabé Magod. D'accord, c'est intéressant qu'il traduit un porte-manteau parce que il y a d'autres avis, le Harour par exemple, qui traduit Magod, que c'est une... comment on appelle ça les planches sur lesquelles on étend le linge. Il y a un nom. Vous savez, il y a comme des... C'est comme une planche. Avec plein de...
Mokatov.
Sur lequel on étend le linge.
Un sèche-linge.
Un étendoir.
D'accord. Alors, il y en a qui dit que Magod, c'est un étendoir. On fait ça un étendoir? Où on étend le linge?
C'est pas le...
Alors, dit comme ça. Donc bon, quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de l'étendre ni sur un lit, un vêtement trouvé, on n'a pas le droit de l'étendre ni sur un lit, et ni sur un porte-manteau. Comme je vous dis, il y en a qui expliquent pas que c'est pas un porte-manteau, mais c'est un étendoir. Les Tsorko, écoutez bien ce qu'on dit ici. On a dit qu'on n'a pas le droit de l'étendre. L'etzorko. D'accord?
Cordalage.
Quoi?
Cordalage.
Non, c'est pas un cordalage.
C'est pas un cordalage, c'est une idée.
Les cordalages, non, les cordalages, c'était. Yachasra, ça, c'était. Avec les pinces et tout.
Non mais là, c'est un sèche-linge de l'époque. Enfin, c'est un...
Michel, il va nous dire. Comment on appelle les. Il a dit, on appelle un étendoir, c'est où on étend le linge?
Il n'y a pas l'étendoir,
c'est ça. C'est un étendoir, ouais.
On est dans un étendoir en français?
Cordonnage.
Ok, bon.
C'est une idée, on va soumettre à la télé française.
On demandera à Bismuth. On demandera à Bismuth parce qu'il est enfant. De savoir comment ça s'appelle. Alors, l'etzorko, écoutez bien ce que dit la Mishnah. On n'a pas le droit de l'étendre ni sur un lit, ni sur un porte-manteau. L'etzorko, pour moi, pour mon besoin. Ça veut dire si c'est pour mon kavod, par exemple. J'ai envie que les gens y croient que j'ai un objet comme ça. Aval, ishtachen al gabe mita, aval gabe magod, letzorka. Mais on a le droit de l'étendre sur un lit et sur un porte-manteau, letzorka, pour le besoin du vêtement. Par exemple, pour l'air. C'est pas fini. La barrette, elle continue. Nizamnulo orchim. Si j'ai des invités qui viennent à la maison.
Ils disent que Rashi donne une traduction de magod.
Oui.
Le mot français, c'est cheville.
Ça, je dis parce que,
il fait référence à une patère.
Voilà, parce que là, c'est pour ça que je traduis au début pieu. Parce que magod, tel que Rachid traduit, c'est une yétette, c'est un pieu. Mais bon, ça revient au même. C'était les
portes. C'est pour attraper les vêtements.
Mais voilà, les portes-manteaux.
C'est un portes-manteau. C'est vraiment important.
C'est les portes-manteaux d'aujourd'hui, sauf que c'est les portes-manteaux de l'époque, apparemment. C'était, on mettait c'est un clou sur le mur et on mettait dessus les vêtements.
Et Arour et Tosfos sur voilà. Pesachim.
Ils disent que c'est un. Comment ils traduisent un étendoir
Une pater. Une pater, c'est un truc qu'on a.
Non, ça c'est Rashi. Mais Arour, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent pas.
Ah, oui, d'accord. Alors.
Un étendoir, c'est pour faire sécher le linge. Ça,
pour l'instant, c'est deux contre un, c'est quoi, là?
C'est ça, un étendoir.
Mais oui, mais c'est pas. À mon avis, on.
Nizdam Nulo Ochim. On verra après, tout à l'heure, sur Wikipédia, si ça existe. Nizdam Nulo Ochim. Si, il a eu. Donc, si, maintenant, j'ai des invités qui viennent à la maison. 31. Nizdam Nulo Ochim. Lo Ishtachena, lo Algabe Mita, lo Algabe Magot. Si j'ai des invités qui viennent à la maison, je n'ai pas le droit de l'étendre ni sur un lit et ni sur un porte-manteau. Ben Letzorko, attendez, ou Ben Letzorka. Que ça soit Letzorko, ça veut dire pour mon besoin, ou que ce soit pour le besoin du vêtement. Pourquoi? Comme Rachid explique, parce que même si je l'étends pour le vêtement, mais j'ai du kavod avec ça devant les invités. Donc a priori, on a répondu à notre question. Quelle question on a posée au début? On a dit, est-ce que j'ai le droit d'étendre, j'ai pour le vêtement, de l'étendre pour son bien, hein, et en même temps en profiter? Voilà. On a dit carrément le contraire. On a dit que non, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? On a dit que, même si c'est pour le besoin du vêtement, si j'ai des invités à la maison et que ça me donnait du kavod, j'ai pas le droit de l'étendre. D'accord? Donc, est-ce que ce serait une preuve est-ce qu'on a répondu à notre question? La Gemara a dit non. Ta réponse n'est pas une bonne réponse.
On a une question. Est-ce que quand il n'y a pas d'invité, et qu'il le pose sur le lit, est-ce que quelque part ça lui donne du kavod aussi pour lui, même s'il est seul?
Peut-être, mais là non, justement.
Parce qu'on voit, là on voit que ça lui est permis.
Oui. Alors on considère que c'est pas un profit, ça. On considère que c'est un vrai profit, c'est avec des invités. D'accord? Alors regardez, c'est une bonne question ce que vous posez, parce que la Gemara va aller dans ce sens.
Si l'objet il vaut quelque chose.
Bah maintenant on va réfléchir ensemble, attendez.
Mais même pour lui,
qu'est-ce qu'a dit
plaisir.
Qu'est-ce qu'a dit cette
Brita? C'est une chose, c'est lui, il prend plaisir, il n'a pas besoin des invités.
Je vais aller plus loin que ça.
Il a un cabot de
Je vais aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'a dit la Brita? La Brita nous a dit ici que si j'ai des invités, j'ai pas le droit de l'étendre. Elle a pas dit pourquoi. Nous on a expliqué qu'a priori pourquoi, parce que je vais en profiter. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à une autre raison pourquoi je n'ai pas le droit de l'étendre lorsqu'il y a des invités? À part le fait que je vais en profiter.
L'orgueil.
Parce qu'il va l'abîmer.
L'orgueil.
Il va l'abîmer.
Est-ce que vous avez encore d'autres idées?
Jalousie.
Encore une chose.
Le vol.
Quand j'ai la Gemara.
Ouais, le risque est
vécu. D'accord. Gemara dit, mais pas, tu t'es complètement planté. Quand on a parlé des invités. C'était pas parce que c'était pour ton kavod. La question que moi je t'ai posée, c'est est-ce que j'ai le droit d'en profiter en même temps que je l'étends? Toi tu veux mener une histoire d'invité. Mais pas du tout, les invités c'est pour une autre raison. Donc on a dit Shani Atam, c'est différent là-bas. C'est un cas particulier. Pourquoi? Kevan, c'est Mikla Kalele. Parce que lorsqu'on a des invités, lorsqu'on étend le vêtement, d'accord, ça l'abîme. Pourquoi ça l'abîme? Imishu Marina, parce que d'abord on peut avoir l'œil des invités. Les invités qui ont fait le Ainara. Et le vêtement, il va prendre un coup, mais c'est pas ton vêtement. Donc tu veux faire le beau avec tes affaires. D'accord, tu veux rouler avec ta Ferrari dehors. Vas-y, mais ne prends pas la Ferrari avec quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Deux, ça c'est la première raison. Il mishum ganave. Ou bien je peux te dire que le problème qu'on a ici, d'accord, c'est pas pour l'œil, mais c'est les voleurs. C'est pour ça qu'on interdit. Donc, est-ce qu'on a répondu à notre question?
Non.
On n'a pas répondu à notre question. Toujours pas de réponse. On n'a pas répondu à notre question, puisque notre question c'était, est-ce que j'ai le droit de profiter d'un objet quand je l'étends, alors que je l'étends pour l'objet, est-ce que j'ai le droit en même temps d'en profiter? On a amené un cas des invités, mais le cas des invités apparemment avait une raison particulière. Donc j'ai pas de réponse. On va essayer d'amener une autre preuve. Tashma, viens écoute. Il y a une Braïta qui dit la chose suivante, à propos de la Egla Arufa. C'est quoi la Egla Arufa? La Torah nous dit la chose suivante. Que si on a trouvé ce qu'on appelle un Met Mitzvah, un maître mitzvah, c'est-à-dire on trouve dans le champ une personne qui est morte. Et on ne sait pas qui l'a tué. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors les anciens de la ville la plus proche, donc on va mesurer la ville la plus proche, d'accord, les anciens de la ville la plus proche, ils vont prendre une génisse, et ils vont l'amener vers le fleuve de Etan, d'accord, et là-bas ils vont la décapiter. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il y a des nous le chafro à Tadamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang, ça veut dire en d'autres termes, on estime que c'est pas de notre faute, nous quand il était là on l'a accueilli, on n'a pas entendu quelque chose de particulier, on n'a pas entendu que c'était quelqu'un qui cherchait l'aumône et qu'on lui a pas donné. Il y a des nous le chafroid à Tamazé. D'accord? Donc ils doivent se déresponsabiliser, c'est une obligation. Très bien. Histoire de la Eglaouf. Alors écoutez bien maintenant, vous allez voir comment ça c'est...
Voleur et jalousie.
Oui, oui bien sûr, je l'ai dit. Hein? Ah ouais, non, je vais... J'ai pas inventé, hein. Tachma, bien écoutez. Donc on va, vous allez voir comment, qu'est-ce que ça va faire la Gemara. Elle va nous prendre un cas, aucun rapport, d'accord. Elle va nous montrer comment de ça on peut avoir une preuve pour notre réponse, pour notre question. Ichnissa. Si une personne a fait rentrer la Egla Arufa, donc là, cette fameuse jeunisse qu'on a dédiée pour l'amener, on l'a pas encore fait, mais on l'a dédiée pour l'amener, s'il l'a fait rentrer, les Ravka. C'est quoi les Ravka? Les Ravka, ça veut dire il a rentré, donc il a amené avec un, comment on appelle ça? Comment ça dit en français? Je sais pas.
Un harnais.
Un harnais.
Un harnassement.
Un harnais, voilà.
C'est comme un, ça veut dire, c'est comme un morceau de bois.
Multiple.
D'accord? Dans lequel on attache plusieurs, un harnais, on
un
appelle
joue,
harnais?
Non, c'est un joug en français.
Il est ici, dit harnais.
Ah, mais j'ai pas encore
vu. Pour attacher quoi?
Pour attacher plusieurs
ensemble.
Animaux, pour faire marcher plusieurs animaux ensemble.
Un joug.
Pour avoir une force de frappe plus forte.
Bah, un harnais.
Un harnais pour
l'escalade, c'est pour...
Un harnais pour un animal,
c'est
quand
ce qu'on lui met dans la gueule.
Quand,
là.
Non, c'est quand tu montes.
Ouais.
Un mort, quand tu mets dans la gueule, c'est le mort.
Non, mais l'ensemble. Le mort, c'est que la barre, non?
Bon, alors en tout cas...
Le harnais, c'est l'ensemble qui te permet de monter le cheval.
C'est l'ensemble, ouais, c'est ça.
Oui, mais là, c'est pas ça. Tu montes pas l'animal. Là, tu le... Tu,
c'est
pour entrer.
Donc, c'est pas une bonne traduction.
C'est pas un harnais. C'est le joug, j'ai ou j'ai.
Alors... Ouais. A priori, d'après ce que Rachid explique, d'accord, d'après ce que Rachid explique, c'était un morceau de bois qu'on utilisait pour permettre aux plusieurs animaux de labourer ensemble, d'accord, de labourer ensemble.
Un grand bâton, il y avait des.
C'est un grand bâton, voilà.
On voit la forme du cou de l'animal.
Ça, il y a une force de frappe qui est plus forte, d'accord. Comme l'Agmara a dit, l'Agmara donne le principe, elle dit que à deux, on peut porter ce que trois personnes auraient pu porter séparément. Vous remarquez ça ou pas?
Après, quand il est bleu, elle est...
Quand on est seul, je peux porter pendant 60-70 kilos, d'accord. Et quand on est deux, on peut porter 200 kilos. Parce que quand on est deux, on a une force de frappe qui est beaucoup plus forte. Comme ça, c'est un principe de... C'est un cadeau que je me remets dans la nature.
Si tu prends un bout de bois, tu peux le lever. C'est assez long.
Tu peux?
Un levier.
Avec un...
Ah oui, l'effet levier, ouais. Alors, donc on dit comme ça. Ichnissa les Ravka. Donc si maintenant, cette fameuse jeunisse, d'accord. Le problème qu'on a avec cette jeunisse, c'est quoi? C'est qu'on apprend une jeunisse qui n'a jamais été à Charlot ou Vadba, c'est-à-dire qui n'a jamais travaillé.
N'a jamais porté le jeu.
N'a jamais porté le jeu. Là, le problème, c'est que... Elle n'a pas vraiment porté le jeu. Pourquoi? Parce que moi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis cette jeunisse-là, il l'a mis, donc il l'a attaché au harnais, mais il l'a attaché au harnais pour lui donner à manger. C'est comme ça, des fois ils avaient l'habitude, ils voulaient pas se prendre la tête, donc ils prenaient 3-4 jeunisses, ils les attachaient au harnais, et la mère elle venait, elle donnait à manger aux 4. Comme ça ils bougent pas, ils sont là, ils bougent pas, hop, allez vous êtes là maintenant. Donc lui, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a attaché cette jeunisse là, le Beth Din a attaché la jeunisse qu'on dédiait, ils l'ont attaché sur le harnais, pour qu'elle mange. Mais entre temps, sans qu'on se rende compte,
elle a bougé.
D'accord, elle a bougé, et ils ont fait un sillon. Donc elle a bossé, dans les faits elle a bossé. Est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère? Qu'est-ce que vous en pensez?
Elle est cachère, parce que c'est elle qui a fait le même, c'est pas le
mec qui a... Pas une volonté.
Il a pas...
Pourquoi? Hein?
Il a pas fait travailler, lui, c'est la bête qui s'est...
Alors regardez, on va bien réfléchir. On va reprendre, vous allez voir que c'est la beauté de l'Agmara. Rappelez-vous ce qu'on a dit par rapport à la trouvaille. On a dit que par rapport à la trouvaille, d'accord, j'ai le droit de l'étendre pour le besoin de la trouvaille, mais pas pour mon besoin. On va revenir à cette jeunisse.
C'est pour ça qu'on compare le vêtement à la jeunisse.
Bien sûr, c'est énorme, c'est énorme.
Il a une volonté,
vous allez voir, la jeunisse.
Ouais.
Lorsque je l'ai attachée au harnais,
ouais.
D'accord, c'était pour mon besoin, pour qu'elle me laboure, ou pour son besoin?
Pour son besoin.
Pour son besoin, pour qu'elle mange. Ouais. Moi, j'ai pas besoin, moi, je voulais pas. Moi, si ça dépendait qu'à moi, je l'aurais pas donné à manger, je leur ai dit, on attend, on va à la banque. Ouais. D'accord. Donc, c'est pour son besoin. Et alors, pourquoi elle est cachère? Pourquoi elle est cachère ici? Elle est cachère parce que, comme il dit ici, d'accord. Pourquoi elle est cachée? Parce que comme moi, à la base, je l'ai mis uniquement pour qu'elle mange, même si après, entre-temps, j'en ai profité, mais puisque ce n'était pas mon intention à la base, c'est bon. J'ai pas fini. On va continuer la brita. Bijvil Chetinak, Veta douche. Mais si, lui, à la base, c'était un petit malin. Il s'est dit, bon, je vais la mettre pour qu'elle mange, et en même temps, si elle bosse un peu, pourquoi pas? D'accord. Donc ça veut dire, il a fait pour son besoin et pour mon besoin. Vous voyez comment on a pris un cas, aucun rapport. Elle a retrouvé la même logique.
On sait que c'est interdit, quoi.
Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Psoula, elle est pas soule. Donc on a la réponse à notre question. Yaha, voilà ici. Zeletsorko ou Letsorkahi, voilà. C'est un cas, on n'est pas mieux que ça. On t'a dit, si tu le fais pour l'animal, tu peux. Mais si tu le fais pour ton bien et pour le bien de l'animal, pour les deux en même temps,
c'est impossible.
D'accord ?
Il n'est pas chaud.
D'accord ? Donc on a la Vekatane Psula. On a dit qu'elle n'est pas sous. Donc on a la réponse à notre question. Est-ce que j'ai le droit de prendre un vêtement que j'ai trouvé et de l'étendre pour le bien du vêtement et pour mon bien ? Oui ou non ?
Mm-hmm.
Est-ce que j'ai la réponse à ma question maintenant ?
Non, ben non.
On a dit qu'on n'a pas le droit. Voilà. C'est la même logique. C'est exactement la même logique. C'est vrai qu'on parle de deux cas différents, mais le concept est le même. C'est que quand on te permet de faire quelque chose pour le besoin de l'objet.
Le vêtement n'a pas de volonté propre, quoi. C'est ça,
oui.
C'est ça l'idée.
Bien sûr.
En résumé.
Non, l'idée en résumé, c'est que quand on te permet de faire quelque chose pour le besoin, par exemple, cet animal-là, tu l'as dédié. Tu l'as dédié pourquoi ? Tu l'as dédié pour faire pour la jeunesse que tu qu'on va offrir là-bas.
Oui.
D'accord ? Donc on te dit qu'une fois que tu l'as dédié, tu n'as plus le droit de la faire bosser. Tu as le droit uniquement de faire un travail pour son besoin, ouais, donc lui donner à manger, mais pas pour mon besoin.
C'est ça.
Mais qu'est-ce qu'on a appris ici ? Qu'une fois qu'il a été dédié, j'ai pas le droit de dire, bon, je vais lui donner son besoin et en même temps, je vais en profiter. Donc c'est la même chose pour la trouvaille. J'ai trouvé quelque chose. On te dit, maintenant tu l'as trouvé, il est dédié. Dédié, il est pas à toi. D'accord ? Dédié, alors je dis, bon, ok, il est dédié, ok, je vais m'en occuper, ok, mais est-ce qu'en même temps que je m'en occupe, je vais pas en profiter ? A priori, on a la réponse, non. Est-ce que ça vous plaît ?
Ben non.
D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse, d'accord ?
Oui, je suis d'accord, mais... Mais là, il n'a pas de salaire, le gars qui fait la trouvaille, quoi.
Non, mais les cas sont pas similaires.
Ah, ça, d'accord. Pourquoi ils sont pas similaires, hein ? Pourquoi ils sont pas similaires,
hein ? Bah, parce que l'autre, c'est indépendamment de sa volonté, puisque c'est l'animal qui a...
Oui.
Lui voulait, mais l'animal...
D'accord.
Il a bougé.
Ça, je suis d'accord. Ça, c'est sûr, ça. Mais moi, je me focalise sur le deuxième cas.
Dans le premier cas.
Non, je me focalise sur le deuxième cas.
Ouais.
On a dit que s'il a attaché la chenille sur harnais,
ouais,
avec l'intention qu'elle mange, et qu'en même temps, elle travaille. Elle dit, tant qu'à faire, si déjà elle est attachée et elle mange, pas grave, elle bosse un peu, ça va rien lui faire. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pas saoul.
L'animal, il est pas
Donc, saoul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on te permet de faire quelque chose, de dédié pour la trouvaille ou pour un objet, tu n'as pas le droit d'en profiter en même temps.
D'accord. Donc, c'est pareil.
Très bien. Donc, c'est pareil. Donc, après, on a la réponse à notre question. La Gemara va enlever cette réponse aussi. Elle va repousser cette réponse. Elle dit non. Mauvaise réponse. Shani Atam, c'est sûrement là-bas. Tu m'as mis toujours un cas particulier.
Shani Atam, c'est où t'es là ?
Shani Atam, je sais pas où c'est en...
Ah.
Non, mais en...
30 à 2.
30 à 2, oui.
Bah, je suis en français, c'est plus facile en français.
Ah, oui, bien sûr,
oui. Lui aussi, ça le dérange comme
je
moi.
3, j'essaie de faire les deux, moi. J'essaie de comprendre le texte.
Pourquoi ? Parce que tu vois les réponses ?
Ouais, ça
déconcentre.
Ça donne envie de lire la
ben
suite.
Oui, j'ai envie de lire le texte.
Quand la question est bonne, on va voir la réponse.
Ouais.
Alors la Gemara dit comme ça, dit non, Shani Atam, c'est différent là-bas. Toujours.
Ah là,
ça veut dire quoi, c'est différent? Ça veut dire, je crois qu'on est 30 à 2.
30 à 2,
ouais,
j'y suis. Ouais,
30 à 2. Ah oui, d'accord. Shani Atam, c'est différent là-bas. C'est-à-dire, encore une fois, tu m'as amené un cas particulier. Un cas particulier qui n'est pas un bon cas. Pourquoi? Déamarkra, parce que le pasuk a dit... Asher le ubad va mikol makor. Qu'est-ce que le verset a dit? Regardez bien ce qu'il dit. Le verset, il dit... Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, c'est écrit Asher lo, Ra'in bet dalet. Ra'in bet dalet, ça veut dire quoi ? C'est la racine de avod, avoda. Avoda en hébreu, ça veut dire quoi ? Travail. Maintenant, ça peut se dire de deux manières. On peut lire ou ravad ou ubad. C'est quoi la différence ? Ravad, ça veut dire qu'on n'est jamais travaillé. Donc c'est un actif. Et ubad, c'est un passif. Que la bête n'a jamais été travaillée. Quelle différence ? La Torah dit le deuxième, pas l'actif, elle dit le passif. Qu'est-ce que ça change ? Très simple. C'est que si la Torah m'avait dit uniquement le terme actif, là j'aurais dit que c'est interdit uniquement si je l'ai fait travailler activement. Mais si elle travaille d'elle-même, c'est pas mes affaires. Là la Torah, c'est pas exprimé comme ça. Elle a dit à Charles, où va de bas ? Une bête qui n'a jamais, d'accord, qui ne sait jamais travailler, ça veut dire que c'est un passif. Ça veut dire que même si ça ne dépend pas de moi, même si dans les faits elle a travaillé, ça pose problème. Donc c'est pour ça que si on a eu, moi je vais te dire, comme ça, la Gemara répond, dit, moi je vais te dire que pourquoi dans la lechot de la Eroufa, on t'a dit que lorsque tu lui donnes à manger, tu n'as pas le droit de la faire bosser en même temps, c'est parce que la Torah m'a donné une clause particulière, elle m'a dit que là, attention, je te préviens, c'est pas seulement de l'actif, même le passif est interdit. Donc c'est peut-être pour ça que là on t'a interdit d'en profiter en même temps que tu fais profiter la bête. Mais dans notre cas de la trouvaille, que la Torah ne s'est pas exprimée d'une telle manière, peut-être que c'est permis. Peut-être qu'en même temps que je fais profiter le vêtement, en profite en même temps. Donc, est-ce qu'on a une réponse à notre question ? Non. On a essayé d'amener une preuve. D'accord ? Mais on a prouvé, on continue toujours comme ça la Gemara. On amène une preuve. Et après, si la preuve elle marche, tant mieux, mais comment on enlève la preuve ? Ou on montre que la Mishnah ne tient pas, ou bien on montre qu'elle parle d'un autre cas, elle parle d'un cas particulier. Vous avez vu, c'est ce qu'on a fait avec les deux cas. On a un premier cas avec les invités, on a dit non, les invités c'est particulier, c'est pour le Aïnara, c'est pour le vol. On a amené un cas de la jeunesse, on dit non, la jeunesse c'est un cas particulier. Parce que la Torah a donné une clause particulière. Elle a dit que c'est pas seulement l'actif qui est interdit, même le passif. Donc c'est particulier. Donc si c'est particulier, tu peux pas m'amener une preuve de là-bas pour notre cas de la trouvaille, dans lequel la Torah n'a pas mis cette clause. Donc on n'a toujours pas de réponse à notre question. Alors, la Gemara a dit... Yahri, c'est comme ça. Hein. D'accord, hein?
Elle était pas mal, quand même.
Pas mal, alors. Attends, mais on m'a posé une très bonne question. Elle dit, Yahri, c'est comme ça, à Fulorechanami? Attends, tu me dis que c'est pas que l'actif qui est interdit, mais c'est même le passif. Alors, on va reprendre le premier cas, dans la jeunesse. Qu'est-ce que tu m'as dit? Si je l'ai attachée au harnais, d'accord, pour qu'elle mange, et moi, je voulais pas qu'elle travaille, mais dans les faits, elle a travaillé. Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle est cachère ou pas?
Elle est
cachère. Cachère? Pourquoi elle a bossé pourtant? Tu m'as dit que même le passif est interdit.
Passif, ouais.
Donc ça marche pas ta réponse. T'as voulu me dire que t'as une clause particulière, mais ta clause elle tient pas debout parce que tu vois bien que ça marche. S'il y avait cette clause là, que même le passif est interdit, bah dans ce cas là, dans le premier cas, ça rejette pas sous l'aussi. Vous me suivez?
Ouais.
Monsieur Daniel.
Une petite couche encore.
Capitaux, hein?
On va faire une couche.
Je répète. Qu'est-ce que la Gemara a répondu?
Quel est le lien entre le fait que la bête a travaillé à son insu pour nous,
oui,
en voulant manger,
et la trouvaille,
et le fait de travailler, de faire un travail actif? Je vois pas la relation entre les deux là.
C'est-à-dire comme ça. Nous on essaye. Qu'est-ce qu'elle cherche la Gemara ici? La Gemara essaie. Enfin, on va chercher un peu partout. Hein. La Gemara essaie d'amener des preuves que lorsqu'on me demande de m'occuper d'un objet, d'accord, j'ai le droit d'en profiter en même temps que je m'en occupe. Donc on veut savoir est-ce que oui ou non. C'est un objet qui ne m'appartient pas, mais qu'on m'en a confié, d'accord, la garde. Donc je dois m'en occuper. Est-ce que, quand je m'en occupe, j'ai le droit d'en profiter? Du style, voilà, le patron il vous donne, il dit bon, tous les mois tu fais tourner un peu ma Ferrari, est-ce qu'en même temps j'ai le droit de...
D'aller sur les
Champs-Élysées pour faire un petit kiff. D'accord. J'ai dit tant qu'à faire, lui il m'a dit tu fais un tour, tu fais 20 km avec. Alors tant qu'à faire, je vais les faire les 20 km. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors, on a amené une première preuve avec l'histoire d'invités. Bon, on a montré que c'était particulier les invités. Là, on a trouvé une bonne preuve, a priori, de la jeunesse. Pourquoi? Quelle preuve on a trouvé? Dans la jeunesse, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que si j'ai attaché au harnais l'animal pour lui donner à manger uniquement, et que mais sans le vouloir, moi je l'ai attaché au harnais pour manger, pour que sa mère lui donne à manger, mais sans le vouloir, du coup, il s'est mis à bosser. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit les cachères. Mais, qu'est-ce que tu m'as dit? Si dans ma cavana, je me suis dit, je vais lui donner à manger, et en même temps, je vais le faire travailler. Ouais. Donc, en d'autres termes, d'accord, puisque de toutes les façons, elle est attachée, donc en d'autres termes, j'ai rien à perdre à la faire bosser. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est pas saoul. Donc, de là, on a voulu prouver que quoi? Que, quand on me confie l'utilisation, quand on me confie la garde d'un objet, je n'ai pas le droit, d'accord, d'en profiter en même temps. D'accord? La Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Comment elle a reposé cette preuve, Daniel? La Gemara a dit non. Tu m'amènes une preuve d'un mauvais cas. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est un mauvais cas que tu m'amènes. Pourquoi? Parce que, dans le cas de la jeunesse, il y a une clause particulière. C'est quoi la clause particulière qu'il y a? C'est que, on t'interdit pas seulement l'actif, on t'interdit aussi le passif. Ça veut dire ce qui s'est passé sans que tu n'aies cherché à le faire. D'accord? Quand je dis actif et passif, c'est ce que je veux dire. Actif, c'est quand je fais quelque chose, et passif, c'est quand quelque chose s'est fait sans que je cherche
à le faire. Dans le cas de la jeunesse.
Dans le cas de la jeunesse.
On a dit qu'elle était cachère quand il travaillait.
Ah, deux secondes. Donc dans le cas de la jeunesse, donc c'est que dans le cas de la jeunesse, même le passif est interdit. C'est pour ça. Mais dans notre cas, nous, que la Torah, dans le cas de la trouvaille, que la Torah n'a pas mis de clause particulière sur le passif, ben je vais dire, excuse-moi, c'est un passif. Moi je prends cet objet. Tu m'as dit que le vêtement que j'ai trouvé, je dois l'étendre une fois tous les 30 jours. Qu'est-ce que t'en as à faire si en même temps j'en profite? C'est un passif, c'est pas un actif. Je l'ai pas sorti pour en profiter. Je l'ai sorti pour le bien de l'objet et en même temps j'en profite. Donc j'ai pas de preuve.
Ouais, tu le mets pour parce qu'il y a le soleil ou un truc comme ça.
La Gemara pose une question, la question que tu poses, Raï. La question qu'on vient de dire. Vas-y, attends. Si tu me dis que dans la jeunesse, la Torah a interdit le passif également, alors j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Comment ça se fait que dans le premier cas de la jeunesse, qu'est-ce que tu m'as dit? Si moi, j'ai attaché l'animal pour qu'il mange. Je voulais pas qu'il travaille. Et du coup, il a travaillé. Il a bossé, du coup, les animaux, papa, ils sont mis à marcher, ils ont bossé.
Cachère.
Qu'est-ce que tu m'as dit? Il est cachère.
Alors, c'est pas bon.
C'est pas un passif, ça? C'est sûr que c'est un passif. Il a travaillé. Donc, A priori, ça aurait pas dû être cacher. Et pourtant, on a dit que c'est cacher. Donc ta clause a un problème, t'as mal compris ta clause. Il y en a un problème ici. Toi, tu m'as voulu me dire que le cas de la jeunesse était un cas particulier parce qu'il y avait une clause. Je dis non, il n'y a pas cette clause-là, c'est du pipo ce que tu racontes. C'est faux. Parce que s'il y avait cette clause, le premier cas n'aurait pas marché. Et demain, elle répond, elle dit non. Elle dit, ha. Elle dit, ha, le din, si vous avez, ha, le din qu'on a enseigné à propos de la jeunesse, lo damia et la leha. Ça ne ressemble seulement à ce cas-là. Quel cas? Là, on va passer à la vache rousse. Jeunesse, vache rousse, c'est pour ça que je disais vache rousse à chaque fois. D'accord? Alors, l'eau d'Amiel, elle est là, ça ne ressemble qu'à ce cas-là. Regardez bien. Bien que le cas de la vache rousse, on a le même principe. La vache rousse, on a pas à la faire travailler.
Oui.
Attendez ce qui est écrit. Ditnan, c'est enseigné. Dans une Mishnah. Shachan Alea off. La vache rousse, on n'a pas le droit de travailler, donc elle n'a pas le droit de porter aucun joug. Très bien. Maintenant, s'il y a une vache, donc une vache rousse parfaite, etc., qui naît, et je décide de la dédier pour un Kadosh Baruch Hu pour le Beth Amikdash. Très bien. Je la dédie, et donc je lui mets aucun joug, aucun poids, elle ne doit rien porter. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit pigeon qui vient et qui se pose sur la bête.
Elle a porté le pigeon.
Elle a porté le pigeon. Ça peut être un corbeau, hein, ça peut être un ce que vous voulez, ça peut être un aigle. Bon, quoi que l'aigle, il aurait mangé.
Ouais.
D'accord? Alors, Kshera, elle est cachère. Pourquoi elle est cachère? D'accord? Pourquoi elle est cachère? Puisque le fait que... Pourquoi elle est cachère? Écoutez bien. Puisque le fait que qu'un oiseau est monté sur l'animal, d'accord?
Ou un moustique.
D'accord? Ou un moustique, si vous voulez. Au propriétaire, ça ne lui a rien fait. Ça ne lui fait rien, elle n'a rien à faire, ça ne lui change rien. Ça veut dire que...
Il n'a pas eu de bien... Ça
veut dire que...
Il n'a pas eu de profit.
C'est pas qu'il va dire, une fois que ça s'est passé, je suis content. Même une fois que c'est passé, tu lui demandes, t'es content, il y a un truc... S'en fiche, ça ne lui fait rien. Il n'a aucun profit de ça. Mais écoutez ce cas-là. Ah là, allez à Zahar. Si maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, allez à Zahar. Si, il y a un garçon, donc un mâle, qui est monté sur elle. Donc, bien sûr, il est monté sur elle pour procréer, pour s'accoupler. D'accord? Et donc, du coup, la manière comment il s'est accouplé, bah, il s'est accouplé avec elle, il est monté sur elle. Donc, elle l'a porté. D'accord? Est-ce que le propriétaire est intéressé?
Oui, bien sûr,
il va avoir des gosses.
Il va avoir...
Alors, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché, lui. Le coup s'est fait. Il y a le mâle qui est venu, il a sauté dessus et pop, il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Soula, elle n'est pas saoule. Pourquoi elle n'est pas saoule?
Voilà.
D'accord? Pourquoi elle n'est pas saoule? Puisque, vous voyez comment on est parti d'une trouvaille, on est passé par... on se barrait en cacahuète, comme ils disent. D'accord? Alors, Soula, elle n'est pas saoule. Pourquoi elle est pas saoule? Parce que moi je suis bien content d'avoir des enfants. D'accord? Alors on veut dire...
Content, s'il avait vendu l'appareil à moi, il serait plus content.
Attends, une seconde. On va dire la chose suivante. Donc, la Gemara va répondre à la chose suivante. Elle va dire, toi tu m'as posé la question, tu m'as dit, je comprends pas ton histoire d'actif et de passif. Tu m'as dit que si vraiment le passif était interdit aussi, dans ce cas-là on aurait dû interdire le premier cas aussi. Le premier cas qui dit que si j'ai fait rentrer l'animal, si j'ai attaché l'animal au harnais pour lui donner à manger et que du coup il a bossé, d'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que dans ce cas-là, c'est cachère. Alors, je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre le premier cas et le deuxième cas. C'est comme dans la vache rousse. C'est quoi? C'est que dans le premier cas, moi, j'attachais l'animal pour qu'il mange. Je ne l'ai pas mis dans un champ. Je l'ai amené chez moi à la maison, dans ma cour. Est-ce que j'ai besoin, moi, qu'elle me fasse un sillon dans ma cour? Est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un sillon dans ma cour? J'ai pas besoin d'un sillon dans ma cour. Je le mets à manger. Du coup, l'animal, il bosse. Est-ce que j'ai gagné quelque chose de ça? Je l'ai mis dans ma cour, je répète, d'accord? Je mets l'animal dans ma cour. Dans ma cour, c'est de la terre, normal, je plante pas.
Est-ce que j'ai un profit ou est-ce que j'en ai pas?
Est-ce que j'ai un profit de ça?
C'est la différence.
Elle a bossé, c'est vrai qu'elle a bossé. J'ai pas voulu qu'elle bosse, mais elle a bossé. Mais est-ce que j'ai un profit de ça?
Moi, c'est ça qui me gêne, c'est ce que dans la notion de travail, le travail gratuit, c'est pas
ouais. Est-ce que c'est un... Alors, justement, la nouvelle notion que veut nous amener la Gemara, c'est quoi?
C'est pour ça que c'est caché, parce que je n'avais pas de
profit. La nouvelle notion de la Gemara, c'est que même dans le passif, même quand on dit que le passif est interdit uniquement lorsqu'il y a un profit. Mais s'il n'y a pas de profit, comme le pigeon qui vient dessus, t'en finis plus.
C'est pas un travail.
D'accord? C'est pas un travail. Ça, c'est peut-être un travail.
Oui. C'est un travail mécanique.
C'est peut-être un travail.
C'est un travail mécanique.
C'est peut-être, par exemple, dans mon cas là, il a attaché l'animal, d'accord, pour qu'il mange. Et du coup, il a fait un sillon. Elle a bossé. Elle a fait un sillon sur 20 mètres. Elle a bossé. Mais moi, ce sillon, est-ce qu'il m'intéresse? Non.
Mais voire même il détruit. Là.
Je n'en veux pas. Je vais l'enlever, ce sillon. Ouais. Je vais payer un employé pour le remettre.
Ouais.
Mais elle a bossé pourtant. Est-ce que c'est un problème? Non. Donc voilà comment la Gemara répondit. Non. Donc notre réponse tient toujours. Donc, Si je reviens à la question initiale, est-ce qu'on a la réponse à notre question dans le cas de la trouvaille?
Je pense que oui.
Ah non.
Bah non.
Je recommence.
On dit que si c'est un passif.
Non, mais c'est un passif.
Non, mais si c'est un passif.
Ça peut être qu'un actif, c'est le gars qui met sa la nappe dans sa table et il est
non,
actif.
Non, si ça,
il veut en profiter.
Si c'est un passif qui nous procure un
profit.
Un profit.
Donc tout ce qui a profit, c'est bon.
À ce moment-là, c'est assuré.
On recommence, je crois que vous avez perdu le fil.
On donne la trouvaille.
Regardez, c'est très simple.
Mais il y a de quoi.
On avait posé une question. D'accord. Il faut être actif, pas passif.
On essaye.
On a posé une question. C'est quoi la question qu'on a posée? Est-ce que, en même temps que j'étends l'objet, j'ai le droit d'en profiter? Donc en d'autres termes, d'accord?
Excusez-moi,
je sais pas, peut-être. Ouais. Donc en d'autres termes, ça s'appelle un passif. On est bien d'accord? Parce qu'on peut définir ça comme un passif. J'ai un objet que tu me dis tous les 30 jours tu dois l'étendre. Donc moi je me dis tant qu'à faire si je dois l'étendre, autant l'étendre dans un endroit où tout le monde le verra. C'est pas un actif ça, c'est un passif, puisque de toutes les façons je devais l'étendre. Très bien. On a essayé d'amener une première preuve qu'on a repoussée. Bon, je reviens pas dessus. Vous verrez dans la Khazara. On a amené une deuxième preuve avec la jeunesse. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit dans cette deuxième preuve-là? La conclusion de ce qu'on a dit, c'est quoi maintenant? C'est que, on a amené une deuxième preuve, on a dit que dans la jeunesse, d'accord? Si je l'ai mise pour manger, mais que dans les faits elle a bossé, mais que c'est un travail que je n'en profite pas, qu'est-ce qu'on a dit?
Cachère.
Cachère. Mais si je l'ai mise pour manger et bosser, donc c'est ça le passif. Moi je l'ai pas mise. C'est moi à la base, je l'ai pour manger, mais j'ai mis tant qu'à faire celle. Pourquoi pas? Je l'ai mis à côté du sillon. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas soul. Donc on a dit, ah voilà, regarde, c'est un passif, c'est assourd. Mais la Gemara a répondu sur ça, elle dit pas du tout. Ta preuve n'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Parce que là, dans le cas que tu m'as amené, c'est une clause particulière que la Torah a mis sur le cas de la jeunesse. Mais dans le cas de la trouvaille, je n'ai pas cette clause. Donc, est-ce que j'ai la réponse à ma question sur ce cas-là? Non?
Non, bah non.
Le cas de la jeunesse, il marche très très bien. Le cas de la vache rousse, il marche aussi très très bien.
C'est ça, je sais pas.
D'accord? Il n'y a pas de problème sur les chevaux.
Mais c'est une clause particulière.
Il n'y a pas d'alachot sur les chevaux.
Exactement. Donc ici, si on lui donne à manger dans
ce... Oui, mais il n'y a pas de cas
même chose. On n'a pas encore la réponse à notre question.
Oui, c'est ça.
On n'a pas encore la réponse. Est-ce que dans un cas standard, d'accord, j'ai le droit de profiter passivement, d'accord, de l'occupation de l'objet, de ma garde de l'objet? C'est une question qui est très forte.
Oui.
J'ai trouvé quelque chose. Est-ce que j'ai le droit passivement d'en profiter? On a laissé une preuve de la jeunesse dans laquelle on a dit explicitement, qu'on n'a pas le droit de profiter passivement. Donc de profiter. Le premier cas, c'était pas un profit, mais là, quand il y a un profit, on n'a pas le droit. Mais on se dit, mais c'est pas la même chose, la jeunesse, c'est un cas particulier. Donc on n'a toujours pas de réponse à notre question. On sait toujours pas ce qui se passe pour le cas de la trouvaille, dans un cas standard. Toujours pas.
Puis je trouve pas qu'on est passif quand on utilise un objet. On est actif quand même.
Non, parce que là, par exemple, dans le cas de la jeunesse, d'accord, pourquoi j'appelle ça passif? Ça veut dire que, moi, à la base, je le fais pour m'en occuper de l'objet. Mais je me dis, tant qu'à faire. Comme le cas de la Ferrari, je me dis, tant qu'à faire. Tu me dis, tout à l'heure, je dois faire 20 km avec. Pour la faire tourner un peu. Tant qu'à faire. Si je fais 20 km dans un endroit où on va me voir. Pourquoi pas? Ça te coûte rien. C'est ça que j'appelle un passif. C'est que ça te coûte rien, toutes les façons, je devais le faire.
Pas très passif, parce que tu choisis l'endroit et tout, et tu vas tirer pas faire 20 km dans des champs où personne ne te voit. Donc tu vas tirer un intérêt.
C'est sûr que je tire un intérêt.
Donc, c'est pas ça du passif.
Mais ça veut dire que...
Du passif, il faut pas que ça me procure quelque chose.
Ça veut, non! C'est un passif qui va mettre de l'intérêt. Ça veut dire que, c'est pas que j'ai dit, bon, un jour je me suis dit, bon allez tiens, aujourd'hui je prends la Ferrari, je vais faire un tour avec. Ça c'est de l'actif.
Ou tu fais des tours à des gens pour gagner de l'argent quoi.
Pas ça. Là c'est un passif. Le propriétaire m'a dit, voilà. D'accord? Il m'a dit, 20 septembre, tu prends la Ferrari, tu fais un tour, 20 km avec. Moi, je me dis, bon, tour pour tour, on va faire un tour au 13e, au Pôle Enfer, on va faire plusieurs tours là-bas autour, comme ça on me voit avec. Vous comprenez? Ça pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on a la réponse à notre question? D'accord? On n'a toujours pas la réponse à notre question.
Bon. Je pense un peu à Shabbat. Là,
alors, je conclue.
Shabbat, on dit l'herbois de Shabbat, mais on profite de tous les bienfaits de Shabbat.
Oui?
Hein?
Oui?
Un dîner bois de Shabbat pour le kavod de Shabbat, mais...
On a parlé hier, parce qu'on a dit que la mitzvah de Shabbat, c'est de kiffer.
De kiffer.
Donc Shabbat aussi, je kiffe pour moi, mais dans les faits, j'ai kiffé.
T'as kiffé, ton âme, elle a kiffé.
Mais nous, on doit le faire pour le kavod du Shabbat.
Vous avez raison.
Et on profite.
Ça, c'est une autre raison, mais dans les faits, la Torah dit Shabbat, il faut kiffer. Est-ce qu'on a kiffé Shabbat? Oui.
De faire un bon...
Imaginez-vous, la Torah, elle te dit, tu dois mettre le talit. Grand talit pour mettre la tefila. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un, il veut pas mettre le talit. Il a mis le talit parce qu'il avait froid. Ah, il a mis le talit. Après, bien sûr que la kavana, c'est encore mieux.
Mais c'est passif ou...
Ça peut être actif. Non. Ah, attendez, la Gemara va expliquer. Maïtama, d'accord, La Gemara pose une question intéressante, elle dit, mais attends, je comprends pas, c'est nouveau ce que tu me dis là, que tu me dis, on revient à la jeunesse. Tu m'as dit que tu me fais une différence dans un passif, si c'est un passif qu'on a tiré du profit, ou c'est un passif qu'on n'a pas tiré de profit. Vous vous rappelez l'exemple, on a dit que si un oiseau il vient il se met dessus, bien qu'il y ait eu un travail qui a été fait, mais comme j'en profite pas, c'est bon. Mais si c'est un travail que j'en profite, c'est intéressant ce que tu me dis ici, de faire une différence dans un passif entre quelque chose qui a, que j'ai tiré profit ou pas profit. D'où tu tires ça? Il faut une preuve pour ça, il faut d'où tu tires ça, de quel verset tu tires ça. Qui dira papa, comment papa a dit? Amar papa, Kora papa a dit. Iktim Ubad, Vekarinan Ubad, Ava Amina, Afilo Mimaila. Iktiv Avad, Vekarinan Avad, Ava Amina, Ada Avad Bayou. Il dit comme ça. C'est encore une fois la réponse, c'est une réponse très intéressante, et on va finir ce point-là, de Rav Papa. Rav Papa, il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comment la Torah a écrit? Asher lo uvadba. Mais comment la Torah a écrit Asher lo uvadba? Elle a écrit Aïn Bet Dalet. Aïn Bet Dalet, on a dit, ça peut se lire ou bien Avad, ou bien Ubad. Eh bien. Si la Torah voulait être sûre qu'on lise Ubad, pourquoi elle n'a pas mis un Vav entre le Aïn et le Bet? Ubad, on ne peut pas se tromper dans ce cas-là. D'accord? Pourquoi elle a dit, Asher lo... Pourquoi elle me met une ambiguïté? Elle me met à Charlot Avad, et on peut lire à Charlot ou Badba, ou à Charlot Avadba. Pourquoi une ambiguïté? Rav Papa nous dit comme ça. Regardez la logique qui fait Rav Papa. Il dit comme ça. Il dit, si on avait écrit Ubad,
bonne journée.
Si on avait écrit Ubad, qu'est-ce qu'on aurait pensé? On aurait pensé que si vraiment on avait écrit Ubad avec un Vav, donc là effectivement tu aurais eu raison. Qu'on aurait dit que quel passif est interdit? Tous les passifs, même si c'est un passif désintéressé. Vous me suivez? Je finis avec ça. Si c'était, on avait écrit Ubad avec un Vav, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait compris? C'est-à-dire que la Torah te dit, Ubad c'est un passif et je t'interdis tous les sortes de passifs. Si on avait dit Avad, Asherlo Avadba c'est un actif, de là j'aurais compris que tous les passifs sont permis. Là on est pile entre les deux. Vous me suivez? Si on avait écrit Ubad comme il faut l'écrire, avec un Vav, dans ce cas-là ça veut dire que tous les passifs sont interdits, parce que Ubad c'est un passif. Si on avait écrit Avad, qu'est-ce que j'aurais compris? Avad c'est un actif, j'aurais compris que l'actif est interdit, mais tous les passifs sont permis. Là on est pile entre les deux. Tu m'as écrit d'une manière que normalement on aurait dû le lire en tant qu'actif, Avad, mais tu me dis qu'il faut le lire comme un passif. De là je comprends quoi? Je comprends que c'est un passif qui doit ressembler à l'actif. Ça c'est une logique Gemara, il faut s'habituer à ça.
Ouais.
Je répète?
Ouais.
Bon, en fait on ferme. Regarde. Je vais écrire la soirée. Ouais. Vous avez quelqu'un une feuille?
Non.
Ah, ça, c'était feuille, c'est sûr. Voilà. Alors.
Allez. Vav.
Ouais.
Avad.
Avad. Et. Ubad. D'accord? Vous voyez les trois manières d'écrire? Première manière, c'est Ubad d'écrire avec Aïn, Vav, Bet, Dalet. Deuxième manière, c'est d'écrire Avad. D'accord? Troisième manière, c'est Ubad. Ça veut dire d'écrire Avad, mais de le lire Ubad. Normalement, si ce serait de l'hébreu normal, d'accord? S'il n'y a pas les voyelles.
Là, tu mets ça.
S'il n'y a pas les voyelles, normalement.
Il manque un point.
D'accord? Oui, il manque un point là. Normalement, d'accord? Si tu veux écrire Ubad, tu écris avec un Vav. Très bien. Alors, Ubad, c'est un passif. Avad, c'est un actif. Si la Torah avait écrit Ubad, j'aurais compris que tous les passifs sont interdits. Même un passif duquel je ne profite pas. Donc l'oiseau qui vient, il se pose dessus, à tour. Si la Torah avait écrit Avad, qui est un actif, j'aurais dit c'est que l'actif qui est interdit. Mais si c'est un passif, par exemple, je le donne à manger et en même temps je profite, d'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord? Tous les passifs auraient été permis. Là, la Torah a fait un truc entre les deux. Elle a écrit, d'accord, par défaut, comme un actif, mais elle a demandé de le ponctuer comme un passif. Vous voyez?
C'est la même lettre?
C'est la même lettre.
Même lettre, mais la,
même lettre, mais la ponctuation est différente. C'est fait exprès.
La ponctuation.
Pourquoi la Torah a fait ça? C'est fait exprès, comme vous voyez, comment même les nekoudot sont calculés dans la Torah. Pourquoi la Torah a fait ça?
Elle n'a pas de ponctuation, la Torah.
Oui, mais c'est-à-dire, on sait qu'on lit comme
on
ça.
Sait on sait qu'on peut lire comme ça des deux matins.
On sait qu'il faut lire comme ça, alors que normalement, on aurait dû lire comme ça.
Ouais.
Pourquoi la Torah a fait ça? Pour te dire que...
C'est grammatical, tu veux dire.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est de la grammaire. Ça.
C'est de la grammaire. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle n'a pas écrit avec un vav? Parce que la Torah fait exprès.
Hey.
La Torah t'a dit, je t'interdis le passif, mais pourquoi je l'écris comme un actif? Parce que je t'interdis uniquement le passif qui s'apparente à l'actif. Ça veut dire quoi? Uniquement un actif, c'est quoi? C'est quand je travaille. Pourquoi je travaille activement? Eh ben, c'est pour gagner de l'argent. On te dit, je t'interdis uniquement le passif qui te rapporte quelque chose comme l'actif.
J'ai compris.
Vous voyez ?
Il est fort à faveur de
la cause. Dans les mots. D'accord ? Hashtag directive Avad avec Arinan Ubad. Maintenant que c'est écrit Avad, mais qu'on lit Ubad, de là je comprends. Be'inan Ubad ou Dumia de Avad. Il faut que le passif ressemble à l'actif. Ma Avad de Nihale. De la même manière que l'actif, eh ben, je le fais parce que ça m'intéresse, sinon je l'aurais pas fait. Af ou bad, denichale, le passif aussi doit être un passif intéressé. Un passif désintéressé, comme l'oiseau qui pose, il n'y a pas de problème.
Mais au niveau de la grammaire, au niveau d'accord. de la phrase, c'est la conjugaison des verbes à des temps différents, ça.
Alors,
ça,
pardon
ça, c'est les façons d'écrire, ça.
Oui, oui, d'accord, c'est les façons d'écrire, mais ça correspond à des temps différents.
Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'on a répondu à notre question initiale?
Tu ne veux pas répondre à cette question.
Oui, j'ai répondu.
Non, non. Ça, c'est trois mots.
Oui.
C'est le verbe travail, travailler, à conjuguer à des temps différents.
Aussi. C'est pas des temps, c'est des... oui, des temps différents, si tu veux.
Des temps différents.
C'est actif et passif.
Ouais. C'est que ce que tu appelles actif, c'est...
Ça, en français, ça aurait donné comme ça. Acharlo avad, ça veut dire qu'il n'a pas travaillé. Et acharlo uvad, bah, ça veut dire une bête qui n'a jamais travaillé.
Oui.
Tu comprends? Je sais pas comment dire en français, ça. Peut-être actif et passif, c'est pas la bonne...
Je voudrais comprendre la différence.
Intentionnel et non intentionnel, ouais. C'est tout.
Non, c'est pas vraiment ça. Ça veut dire qu'il n'a jamais travaillé, ça veut dire on te dit peu importe si tu étais pour quelque chose. Non, je pense qu'actif et passif, en tout cas, c'est bon. En tout cas, pour la Gemara, c'est plus facile à dire le mot actif et passif. Donc on n'a toujours pas répondu à notre question initiale. Bien d'accord. Hein, est-ce qu'on a répondu à notre question initiale?
Non.
Okay, on n'a toujours pas répondu à notre question. Alors qu'est-ce qu'on va faire hein?
Et comment on sait qu'on prononce bien ou bad?
Ah, c'est une massorette.
C'est Targoun.
Non, c'est une massorette. Ça, c'est la tradition.
Ouais.
On sait qu'on lit comme ça. D'accord? Bon. A priori, on n'a toujours pas répondu à notre question.
Donc, le tour de Ferrari sur les
d'accord. Donc, puisqu'on n'a pas de... Attendez. Puisqu'on n'a pas de réponse à notre question, qu'est-ce qu'a tranché le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch a tranché que puisque la Gemara n'a pas réussi à trancher cette question-là, ça arrive des fois, c'est rare, mais ça arrive que la Gemara n'arrive pas à trancher. Dans ce cas-là, on est obligé de prendre le côté le plus marmir. D'accord?
Donc, puisqu'on a un juste,
donc on l'utilise pas. Mais celui qui a utilisé, on ne peut rien lui dire. Parce qu'on a un doute.
Ah, Bediavad, il a le droit.
Non, c'est pas Bediavad, s'il a fait, on ne lui dit rien. Bediavad, il a le droit.
Sauf si au propriétaire, quand il confie l'objet, on lui dit qu'on peut utiliser l'objet par
rapport à là, c'est pas confié, là.
Oui, là, quand on l'a trouvé. Là,
c'est trouvé.
On connaît pas, là.
Mais qu'est-ce aujourd'hui. Qu'il fait, le retrouvaille, s'il il lui donne à son propriétaire? Parce qu'il a été chômeur chinam, il a travaillé, il a fait,
qu'est-ce qu'il fait
nourri, etc.
Il a nourri.
Et c'est pour ça qu'on a expliqué depuis longtemps que c'est une galère de trouver quelque chose.
Exactement.
C'est pas facile.
À part si on le trouve dans l'eau.
Oui. On a appris tout ça, oui. Si on le trouve dans l'eau, etc. Ou bien si c'est dans un domaine public que la personne ne comptait pas le retrouver. Il y a beaucoup de détails dans la retour. Voilà, ça va être ici.
Et où on s'est arrêté là?